Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi la fréquence de la paix, Radio Okapi, qui vous propose parole aux auditeurs. En Ituri, au moins 50 personnes ont été tuées en l'espace de 2 semaines, plus particulièrement dans les territoires des Djougou. Ce massacre est attribué à des hommes munis d'armes blanches et à feu. Les humanitaires comptent plusieurs nombres de déplacés à la suite de ces attaques récurrentes. Que faire pour mettre fin à ces attaques et surtout éviter un embrasement de toute la province? Rejoignez-nous au 081-890-4969-09-97-06-4969 pour vos interventions en direct. Le débat se déroule également sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Jean-Claude Tiala est à la mise en onde de ce magazine réalisé par Nico Kalambay, coordonné par J.R. Lungembo et Pierrot Elameji. J'ai le réel plaisir de vous les présenter sous la supervision de Martin Sebujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Paroles aux Auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Une cinquantaine de morts attribuées à des hommes munis d'armes blanches et à feu dans les territoires des Djougou, on en parle ces derniers temps, et des dizaines de milliers de personnes déplacées. Comment mettre fin à ces attaques et surtout éviter un embrasement? Comment gérer pacifiquement ces conflits? Quelles mesures mettre en place? C'est la question au centre de nos échanges. Nous sommes avec vous ensemble pour 57 minutes d'échange et de partage. Nous avons associé à cet échange le député national Grégoire Lusenge, élu du coin, et qui est avec nous en direct de Kisangani. Grégoire Lusenge, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous séjournez à Kisangani, bientôt c'est la rentrée parlementaire. Alors, comment analysez-vous ces derniers affrontements qui se sont déroulés à Djougou et ont causé autant de morts?
Avant toute chose, permettez d'abord que je puisse encore une fois remercier la radio Okapi qui nous donne cette opportunité d'analyser avec l'ensemble de la population congolaise la tragédie qui se passe aujourd'hui dans notre province, la province de l'Ituri. Et à l'occasion, je présente toute ma compassion à toutes ces familles qui ne cessent d'être endeuillées en territoire des Djougou à cause de ces assassinats, de ces crimes odieux qui se commettent nuit et jour. En somme, c'est depuis plusieurs mois maintenant que la province de l'Ituri en général, mais le territoire des Djougou en particulier, est endeuillé. Ce sont des crimes odieux, ce sont des êtres humains qui sont massacrés. Vous l'avez si bien dit à l'introduction de votre émission à l'armée blanche, mais aussi les assaillants utilisent des armes à feu. Et par rapport à la question, il est beaucoup plus important, Pierrot, que nous puissions réfléchir quelle est la piste des solutions durables. La piste des solutions durables, c'est le renforcement de l'autorité de l'État. Nous avons des institutions de la République, ici la République démocratique du Congo, qui ont l'obligation constitutionnelle de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Moi, je suis de ceux qui pensent les autorités nationales au niveau de Kinshasa doivent comprendre que Djougou fait partie intégrante de la province de l'Ituri. Et l'Ituri fait partie intégrante de la République démocratique du Congo. C'est dire que ce sont les autorités nationales qui ont la responsabilité première de renforcer la sécurité des personnes et des biens aujourd'hui en territoire des Djougou. Donc par rapport à la question 1, il faut que on puisse renforcer au maximum les déploiements des forces de sécurité et de la police, c'est-à-dire l'armée et la police, et aussi les services de renseignement. Parce que au stade actuel, après plus d'un mois de massacres odieux, des tueries, des incendies, jusque-là, on n'arrive pas à identifier les assaillants. Ça pose problème. C'est quelque part, il y a une insuffisance au niveau de nos services nationaux des renseignements, parce que c'est une question nationale. De deux, je pense qu'aujourd'hui, peu à peu, c'était des petits villages, mais aussi, peu à peu, c'est l'ensemble du territoire des Djougou, de la province de l'Ituri qui est en train de s'embraser, et c'est la République démocratique du Congo qui est en train de s'embraser. Moi, je crois que c'est une question de sécurité nationale, et le garant de la sécurité nationale en chef au niveau de la République, c'est le président de la République, qui a l'obligation constitutionnelle de sécuriser l'ensemble de la République au travers l'armée, la police. Et aussi, il y a le gouvernement de la République. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut que le gouvernement s'implique au plus haut niveau. Et puis, de deux, je pense qu'il ne faut pas que ces crimes restent impunis. Depuis peu, on a arrêté quelques assaillants. Nous, nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut qu'on arrive à identifier d'abord ces assaillants, les quelques assaillants qui ont été arrêtés. Il faut qu'ils soient traduits en justice pour nous permettre quand même à ce que ces crimes-là ne soient pas impunis. Il faut une justice équitable par rapport à toutes ces victimes. Il faut que ces gens soient traduits devant les cours des tribunaux, qu'on puisse leur offrir des procès équitables et qu'ils soient condamnés conformément
Merci.
Aux lois
voilà.
de la République.
Oui, mais on sait que, oui, Grégoire Lusenge, voilà, Grégoire Lusenge, on connaît, on sait que la province des Lutuli en son temps a connu beaucoup d'atrocités. Mais est-ce qu'il faudrait-il aujourd'hui résoudre la question seulement sur les plans de renforcement de l'autorité de l'État? Y a-t-il moyen de penser aussi au mécanisme des dialogues, des discussions pour identifier le vrai problème qui se pose aujourd'hui? Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur a séjourné. On a pu lancer des campagnes, des discussions de réconciliation pour que les gens se mettent autour de la table. S'il y a des éléments qui peuvent être mis en discussion, soit discutés pour éviter effectivement qu'on puisse enregistrer de tels cas. Faudrait-il aujourd'hui résoudre cette question aussi par des discussions?
Écoute, la solution, la solution première n'est pas cette discussion. Je veux vous dire honnêtement que nous avons été sur le terrain. Les élus, le caucus de parlementaires de Lituri, nous sommes allés jusque sur les lieux du drame. Nous avons parlé avec les communautés locales. Ce n'est pas un conflit interethnique, Pierrot. Ce sont des crimes qui se commettent en République démocratique du Congo. Ce sont des citoyens qui sont tués. Et par rapport à la question, il appartient au gouvernement de la République. Il appartient aux institutions de la République qui ont l'obligation de sécuriser les citoyens congolais, de descendre en Ituri et d'utiliser les moyens dont dispose l'État pour ramener la paix sociale. Et puis, au finish, lorsque on aura identifié les assaillants, lorsque les auteurs de ces crimes, ceux qui sont arrêtés, seront déférés devant le cours des tribunaux, ils seront traduits en justice, ils seront condamnés, on va développer aussi un dialogue social pour que les communautés ituriennes qui vivent toujours en harmonie continuent à vivre en harmonie. Mais au stade actuel, Pierrot, ce qui est important, c'est la sécurisation de ces nombreux villages aujourd'hui qui sont incendiés, qui sont rasés. Et puis, de deux, c'est mettre un mécanisme national qui va permettre à ce que les milliers de populations qui se sont déplacées aujourd'hui puissent retourner au niveau de leur village. Et par rapport à ça, c'est d'abord une question nationale. Il faut l'implication de l'État au plus haut niveau. Ce n'est pas un conflit intercommunautaire, un conflit interethnique qui va nécessiter à ce qu'on mette deux communautés en place. Non, c'est une question nationale qui nécessite à ce que le gouvernement Merci. De la République, le président de la République, les institutions qui gèrent l'armée, la police et les services de renseignement s'impliquent au plus haut point pour trouver une solution.
Merci. On vous garde en ligne le temps d'écouter aussi les auditeurs qui sont nombreux, qui commentent ces sujets sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Vous estimez que c'est une question de sécurité nationale. Il faut une implication plus haut point pour restaurer l'autorité de l'État, contrer et arrêter. S'il faut juger et surtout identifier les assaillants, c'est ça votre la démarche que vous estimez qu'elle est très très importante. Dieudonné, vous êtes à Mahagui. Merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Bonjour. Donné.
Bonjour Monsieur Pierrot, aussi bonjour à l'invité Grégoire et que je salue à Papa.
Oui. Et Dieudonné, pour vous, comment on doit prévenir et mettre fin à ces affrontements?
Avant tout, permettez-moi à Rubango Dieudonné Jupir, Monsieur Pierrot, de présenter mes sincères condoléances à la population itourienne. Plus particulièrement à mes frères Jessère et Ndjogo. En fait, ce qui concerne la situation de Ndjogo actuellement, cela devient de plus en plus complexe, car au commencement, c'était des rumeurs, et même les rumeurs s'est transformé en la massacre des civils, des incendies de maisons, des sections de vivres et aux champs, et au stade actuel, il y a même attaque des positions des forces armées, et la situation se détériore du jour au jour. Il est clair à ce qui précède, M. Piron, c'est le moment que les Ituriens laissent de côté tout ce qui était ou bien qui est comme des divergences, puis s'unir comme fils et filles d'un même père et mère pour bouter dehors ses ennemis de la paix et du développement de l'Ituri. Car l'Ituri a été déjà endeuillé de 1999 à 2003 pour
lequel ces passions restent gravées à leur cœur. Et jusqu'à aujourd'hui, cette perte n'a jamais été récupérée. Et ne sera d'ailleurs jamais récupérée. Comme piste de solution, à mon avis, d'abord la sécurisation des personnes et leurs biens est une mission régalienne du gouvernement. Nous, comme nous avons déjà la police, nous avons l'armée, nous avons les autorités à place, nous devrions les accompagner. Accompagner, car dit-on, puisque it is not the job of the soldier, but only the soldier can do it. J'interprète cela. Sauf à l'armée de maintenir la paix. Et aussi, si l'armée peut maintenir la paix, la population locale aussi a une part de responsabilité, M. Pierre. Et aussi, nous, comme étudiants, nous devons bien savoir que ceux qui nous tuent sont parmi nous et vivent avec nous. Nous devons avoir confiance à nos autorités, à l'armée, à la police, pour dénoncer tout mouvement et cas suspect de nos entourages. Car si nous gardons silence, tout en privant ceux qui sont censés nous protéger par des informations, M. Pierrot, nous continuerons à payer, je répète, nous comme étudiants, nous allons payer de nos propres sang et pour toujours.
Merci.
Par rapport à tout ce
merci.
Qui
merci beaucoup, Dieudonné. Vous estimez, Dieudonné, qu'il faut que la population laisse tomber les divergences. Il faut que la population accompagne les autorités en dénonçant ceux qui sont en suspect, ceux qui posent des gestes pour que le service de sécurité qui doivent accompagner la sécurisation de la population soit informé. Et pour vous, il faut l'autorité de l'État, mais il faut que la population accompagne les autorités en dénonçant tous ceux qui peuvent être impliqués dans ces genres de pratiques et massacres pour permettre à la population de vivre paisiblement. Merci beaucoup, Dieudonné. Moïse, vous êtes à Bounia. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour, honorable Grégoire Wisseng.
Bonjour. Comment faudrait-il aujourd'hui procéder pour arriver à mettre fin à ces attaques et à ces massacres?
Pour arriver à l'arrêt de ces massacres, le gouvernement doit mettre tous les mécanismes en marche pour arrêter tous ces massacres. La paix doit se poser par l'État congolais dans tous les milieux, si possible. Aujourd'hui, si nous parcourons tous ces villages, il n'y a personne, les villages sont incendiés. Même nos enfants vont manquer un jour d'aller visiter les villages.
Moïse, vous êtes sur les antennes, on vous écoute.
Oui, nous avons manqué un jour d'aller visiter même les villages propres parce que tout est descendu. Au moment où l'État congolais est mis en place, même vous voir, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense est ici sur place, mais les massacres sont en train de continuer, de faire masse dans des villages.
Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Moïse. Lui, il estime que la paix doit être imposée dès lors que le vice-ministre, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur est sur place, le ministre de la Défense. Il faudrait mettre en place tous les moyens pour arriver à résoudre cette question, à imposer la paix. On revient à vous, Grégoire Lusenge, député, membre du caucus des députés de la province de l'Ituri. Vous avez été sur terrain. En tant que député national, il y a une plénière, la session va commencer aujourd'hui. Quelles seront les démarches en tant qu'élu, pas seulement vous, mais l'ensemble des députés, pour arriver à ressortir auprès du gouvernement des mesures concrètes vraiment qui doivent être appliquées sur le terrain pour résoudre cette question?
Merci beaucoup, Pierrot. C'est une excellente question. Avant même que nous ne commencions cette plénière, même pendant que nous étions en vacances, quand cette tragédie humaine, cette barbarie a commencé dans notre province, nous avons commencé la démarche pour que, Pierrot, qu'il n'y ait pas de déficit d'information au niveau des institutions de la République. La première démarche, nous l'avons commencée au niveau de notre institution pendant que le président Obiang-Nguema était en Europe pour la réunion de l'AFP. Et nous avons été réussis par le premier vice-président à qui nous avons fourni toutes les informations utile que nous recevions de la base par rapport à la tragédie qu'est en train de connaître aujourd'hui la province de l'Ituri. Et aussi, avant que nous descendions à Bounia, nous avons eu deux réunions à haut niveau avec les chefs du gouvernement. Le premier ministre Tshibala nous a reçu à deux reprises, le député de l'Ituri. Nous avons discuté avec lui tous les contours de ce qui se passe en Ituri et ensemble, en tant que responsable, nous lui avons proposé des solutions pour que le gouvernement de la République s'implique. Et nous-mêmes, descendis pendant nos vacances, vivre les réalités. Après, il y a eu un accompagnement du gouvernement. Il y a d'abord le vice-premier ministre sortant, Chadari Kouyovni, qui est arrivé à Djougou, et après lui, aujourd'hui, c'est le ministre Movasakane. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer à faire pression, parce que vous avez suivi tous les auditeurs. Mes deux frères qui ont parlé, tous vous démontrent que c'est une question qui nécessite une solution au niveau du gouvernement de la République, au niveau des institutions nationales. Nous allons continuer à mobiliser les institutions nationales, le président de la République, le gouvernement de la République et l'institution parlement pour que la province de l'Ituri puisse avoir l'appui nécessaire de la République démocratique du Congo pour sa sécurisation. Et aussi, nous avons décidé d'aller plus loin parce qu'aujourd'hui, au regard des insuffisances que nous voyons sur le terrain, parce qu'il y a un auditeur que vous avez dit, c'est plus d'une semaine et demie qu'une délégation de haut niveau du gouvernement de la République se trouve à Bounia. La délégation conduite par le vice-premier ministre Movasakane. À ses côtés, vous avez le ministre de la Défense et le conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité. En dépit de leur présence, en dépit des déploiements des forces de sécurité, les tueries continuent, nous continuons à perdre nos frères. Et nous nous sommes dit, nous allons mobiliser aussi la communauté internationale en faveur de cette tragédie, parce que c'est vraiment une tragédie humaine. Et à la rentrée parlementaire, les élus de l'Ituri, nous allons contacter toutes les ambassades des pays membres du comité de sécurité des Nations Unies ici en République démocratique du Congo. Nous allons contacter les représentants des grandes organisations internationales, les Nations Unies, l'Union Européenne, l'Union Africaine, la communauté des États de l'Afrique centrale. C'est-à-dire parce que nous nous sommes dit, étant donné qu'il y a une certaine, je dirais, impuissance par rapport à cette tragédie de l'approche du gouvernement de la République au stade actuel, nous allons aussi amener cette information au niveau des institutions internationales pour que la mobilisation soit importante et que ces massacres s'arrêtent. Voilà un peu la grande action sur laquelle nous allons nous consacrer au cours de cette session parlementaire. Vraiment, ça sera une session dure pour les parlementaires de l'Ituri. Mmh. Nous allons travailler au plus haut niveau pour que, à tous les niveaux, nous puissions mobiliser les forces nationales et internationales en faveur de la province de l'Ituri pour arrêter ces massacres humains, cette tragédie qui aujourd'hui est en train de faire plusieurs dizaines, je dirais même des centaines de morts.
Merci. On reste à Bounia avec vous, Kassamba. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour l'invité honorable Lusenge, bonjour les auditeurs de la radio Okapi. D'abord je présente mes condoléances les plus attristées à toutes les familles effleurées. Je voudrais profiter de votre radio pour demander aux autorités, à ceux qui nous dirigent, comme l'ont fait mes prédécesseurs, à prendre les responsabilités en main. Quand en 1999, on a eu des problèmes en Ituri, il n'y avait pas un gouvernement responsable. Il y avait des Ougandais et des Rwandais. Cette fois, c'est un gouvernement national responsable, une émanation du peuple congolais, y compris les Ituriens. Que ce gouvernement puisse s'investir, puisse renouer ciel et terre, afin qu'on puisse découvrir les mains noires. Les mains noires ne sont pas enfouies dans le sol. Ce sont les mains noires qui circulent sur la surface, il faut qu'on les déniche. Comme ça, après les avoir dénichés, on saura, entre-temps, on impose la paix, les gens vont se mettre assis autour de table, trouvent une solution une fois pour toutes. Comment se fait-il que les 15 dernières années, quand on utilise qu'on puisse toujours vivre dans des situations un peu atypiques? Nous étions habitués à vivre calmement tout le monde. Même les conflits, on peut en avoir. C'est terminé au Kassai avec les Balouga et le Lulua. C'est terminé. Les Belges et les Hollandais, c'est terminé. Les Japonais et les Américains, c'est terminé. Comment est-ce que chez nous, ça doit être spécial? Qu'on prenne les choses au sérieux, qu'on réunisse tout ce qu'on peut réunir comme moyen afin que l'Ituri puisse recouvrir sa paix. L'Ituri, c'est une terre d'asile de tous les Congolais. Il n'y a pas seulement les Ituriens qui pleurent. Tous les Congolais qui vivent grâce à l'Ituri sont en train de pleurer. Qu'on essuie nos larmes, qu'on ne cherche pas main noire, qu'on ne sait pas découvrir. Ces mains noires, on va les découvrir tôt ou tard.
Merci. Merci beaucoup, Kassamba. Vous demandez d'abord au gouvernement central de mettre en place tous les moyens nécessaires, mais au-delà de tout, il faut qu'on arrive à faire un travail d'identification pour savoir qui sont les auteurs de ce massacre. Notre invité les disait tout à l'heure, s'il faudrait juger, il faut juger, mais après, que les gens peuvent s'asseoir pour un dialogue social. Mais avant tout, il faut quand même qu'on arrive à mettre fin à cette situation et permettre à la population de vivre paisiblement, mais tout en identifiant les auteurs de ces attaques et ces massacres. Merci beaucoup, Kassamba. Au centre du pays, Timothée, vous êtes à Kananga. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour aussi à l'invité, Pierrot.
Alors, que faudrait-il faire aujourd'hui pour mettre fin à ces attaques?
Oui, Pierrot, j'interviens dans ce thème parce que c'est un thème très important. D'abord, la situation de l'Est du pays. Nous regrettons le comportement de nos dirigeants congolais actuels parce que la première mission, les amis l'ont déjà dit ça au début, la première mission que l'État doit faire sur le terrain, c'est sécuriser la population Piro. Mais vous trouvez que le vice-premier ministre était là et le nouveau vice-premier ministre est encore là au niveau de l'Est du pays, c'est toujours deux problèmes. Moi, j'avais pensé demander aux députés avec leur démarche c'est d'enfoncer le clou Pierrot pour dire que la population de l'Est du pays puisse vivre en paix. Parce que le souci actuel de la population, avec cette marche, il y a possibilité parce qu'à tout moment, nous assistons dans des problèmes à l'Est du pays Pierrot. Ce n'est pas seulement à l'Est du pays. Les problèmes d'insécurité, c'est presque dans la République démocratique du Congo. Je dirais dans 26 ou dans 25 provinces qui constituent la RDC. C'est pourquoi, en tant qu'élu, qui est aux médias comme invité, ils peuvent écrire d'une manière générale, adresser au chef de l'État.
Alors Timothée, on perd un tout petit peu, n'est-ce pas, les signaux entre le studio et Kananga, mais vous avez voulu, merci beaucoup d'avoir été avec nous Timothée à partir de Kananga, vous souhaitez que les élus nationaux, Grégoire Lusenge et les autres députés puissent mener ces démarches jusqu'au bout, pourquoi pas aussi s'adresser directement, vous l'avez dit, au chef de l'État pour qu'on mette en place de mécanismes pour permettre à ce que la population soit sécurisée, parce que des cas d'insécurité, on a parle, mais quand il y a de massacres à grande échelle à ces niveaux, des villages attaqués, ça devient vraiment assez préoccupant et ça interpelle. Il faudrait vraiment qu'on arrive à prendre de mesures pour résoudre cette question. Et sur place à Djougou, nous allons rejoindre notre compatriote Gérard qui nous a contacté pour intervenir. Gérard, merci d'être avec nous en direct. Bonjour.
Bonjour Radio Kati.
Alors, Gérard, vous êtes sur place à Djougou et ensemble, quels sont les mécanismes aujourd'hui qu'il faut mettre en place pour arriver à arrêter ces tueries dans les territoires de Djougou?
Ok, de notre côté, ce que nous remarquons avec grand regret, c'est que d'abord, le gouvernement nous parle des groupes non identifiés étant tout gouvernement. Ça, c'est d'abord le premier problème. Et le deuxième problème, c'est la qualification des drames qui se déroulent. Il ne s'agit pas de conflit entre l'Inde et l'EMA, il s'agit bel et bien de génocide d'un groupe ethnique bien identifié. Comme ça, ce que je pouvais dire, si le gouvernement se sentait incapable, alors il fallait seulement libéraliser les deux groupes pour se battre et que les victorieux gagnent. Et sinon, il faut intervenir efficacement, puisque vraiment, ça fait mal. Quand vous voyez tous les villages qui sont consumés, c'est intolérable, vraiment, ça ne marche pas. Alors, que l'État prenne les responsabilités, il y a le ministre qui est à Bougne, ça fait plus d'une semaine. Mais les localités qui sont brillées à sa présence, si aujourd'hui on enquêtait, et si on partait vérifier les drames qui se commettent, vraiment, ça démontre une irresponsabilité. Terrible, terrible, sans qualifier le mot.
Alors pour vous,
ce qu'il faudra faire, c'est seulement que les militaires et la police s'impliquent réellement et que la population passe et prenne et regagne l'air qui est
leur milieu.
Je peux dire que même l'aide, on est en train de crier de partout, des ONG, ce n'est pas quelque chose de durable pour la population. La population doit se prendre à charge soi-même, s'autonomiser, seulement comme ça que les gens peuvent vivre. Mmh. Aujourd'hui, les écoles sont brûlées, les gens sont en déplacement, les déplacés ne savent à qui se plaindre, alors vraiment, ça fait mal, ça fait mal. Donc, il faut vraiment que l'État s'explique si on pense à un gouvernement responsable.
Merci beaucoup, Gérard. Oui. Vous vous étonnez du fait qu'on puisse dire que les auteurs de troubles sont non identifiés. Pour vous, on qualifie mal le massacre. Pour vous, c'est génocide. C'est pas une question de conflit intercommunautaire. Notre invité le disait tout à l'heure, qu'il y a des assaillants qui attaquent. Il faudrait les identifier. Il faut mener des enquêtes. Et dès lors que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense et toute cette délégation se trouvent en mission sur place, il faut mettre des gros moyens pour permettre à la population de regagner son milieu, parce que les gens ne peuvent pas vivre avec les aides humanitaires, c'est insuffisant. 081 890 4969, 081 890 4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir dans ce magazine.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Parole aux auditeurs.
Grégoire Lousengue, député national, vous avez suivi, le message est unanime. Hein. Tout le monde demande au gouvernement de prendre ses responsabilités. Il y a notre ami de Kananga qui a souhaité que vous puissiez aussi aller au bout avec la démarche auprès du pouvoir central. Mais pensez-vous aujourd'hui que les réponses qui sont apportées par les gouvernements pour résoudre cette question ou pour mettre fin à ces tueries sont-elles assez suffisantes en termes de déploiement, en termes d'échange de formation et de moyens qui sont aujourd'hui mis en place par le gouvernement?
Merci beaucoup, Pierrot. Je crois que je tiens à rassurer d'abord mon frère qui nous a exhorté davantage à pousser avec la démarche, que notre démarche, comme nous l'avons dit, nous allons contacter toutes les institutions. Même à un moment, avant d'aller à Bounia, nous avons demandé à ce que nous puissions rencontrer le président de la République. Nous avons déposé une demande d'audience au cabinet du président de la République. Je pense que le jour où on va inviter le député de l'Ituri à la présidence, nous allons souhaiter donner tous les détails de la question de cette stratégie au président de la République. Et effectivement, nous allons continuer jusqu'au bout de la démarche. Et comme vous l'avez dit, tous les auditeurs sont unanimes. C'est une question de sécurité nationale. Il faut l'implication, la solution viendra des institutions de la République qui ont l'obligation, je ne cesse de les répéter, constitutionnelle, de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Mais au stade actuel, la réponse, Pierrot, que nous avons du gouvernement de la République est insuffisante. Moi, je commence en... Vous savez, le territoire des Djougou, c'est un territoire immense, important, et ce sont des vies humaines qui sont massacrées. Mais le nombre de militaires et des éléments de la police qui sont déployés aujourd'hui en province de l'Ituri en général, en territoire des Djougou en particulier, me paraît totalement insuffisant par rapport à l'ampleur de cette tragédie. Je crois que lorsque le vice-premier ministre, le ministre de la Défense vont retourner à Kinshasa, ils auront le courage d'informer le gouvernement de la République qu'il faut un déploiement conséquent sur l'ensemble de la province de l'Ituri, surtout en territoire des Djougou, pour essayer de contenir ces massacres. Parce que c'est au quotidien que les assaillants attaquent. Et aujourd'hui, ces assaillants, ils ne se limitent pas tout simplement à tuer les populations civiles. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques temps, même un de nos éléments de la police a été tué. C'est dire que quelque part, la question est très préoccupante. Il faut un nombre suffisant de forces et de l'ordre. Il faut un nombre suffisant de militaires et de policiers. On doit renforcer les services de renseignement. Et aussi, Pierrot, il faut une logistique conséquente. Qu'est-ce que j'attends par logistique? Les militaires, les policiers qu'on déploie en territoire des Djougou aujourd'hui sont face à des gens qui viennent tuer. Il faut qu'on leur donne la logistique conséquente. Ils peuvent leur permettre de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens et de se sécuriser eux-mêmes. Vous voyez, on ne peut pas déployer 4-5 policiers dans un coin. Non, il faut vraiment des sections entières, des bataillons entiers, je dirais même des contingents des militaires et des policiers pour nous permettre à gérer en toute responsabilité cette tragédie. Parce que la tragédie qui se passe aujourd'hui en province de l'Ituri, elle commence à devenir de plus en plus préoccupante. Je pense de la même manière que le président de la République, Joseph Kabila, s'est déplacé personnellement au Kasaï pour aller étudier et pour aller contenir la question de Kamuna Sapu. Je pense que le plus qu'étant pour le président Joseph Kabila de se déplacer personnellement en province de l'Ituri pour essayer de nous contenir cette tragédie. Parce que j'ai dit, vous avez les rendements des missions gouvernementales qui sont parties, qui sont insuffisantes, on continue à tuer les gens. Je pense que maintenant nous avons besoin d'une action au plus haut niveau, et quand je parle de plus haut niveau, je parle de l'institution suprême de la République, je parle du président de la République.
Voilà, mais Grégoire Lusenge, on sait que la province de l'Ituri a été déchirée par des conflits, beaucoup d'auditeurs ont dit on ne peut pas revenir là-dessus, mais est-ce que entre toutes ces années qu'on a connu la paix dans la province, y a-t-il eu un déficit d'informations sur les éléments clés qui pouvaient être latents pour pouvoir déclencher une telle situation?
Pierrot, vous avez suivi tous mes frères. Tout le monde est unanime pour vous dire qu'aujourd'hui, la province de l'Ituri ne souffre pas d'un conflit interethnique. Il est vrai que parmi les assaillants, on peut trouver quelqu'un d'une tribu quelconque, mais c'est pas pour autant qu'on va dire que c'est un conflit interethnique. Vous comprenez un peu la situation. En son temps, je dois me faire comprendre. En son temps, nous nous sommes retrouvés en face de deux communautés de notre province de l'Ituri qui ont développé un conflit, et les Ituriens se sont mis autour d'une table et on a réussi au travers les dialogues ituriens à ramener la paix sociale. Mais aujourd'hui, nous avons des institutions qui fonctionnent légalement. Nous avons un président élu. Nous avons un gouvernement composé par des ministres au niveau national. Nous avons des institutions provinciales. C'est à ces institutions-là de remplir leurs obligations constitutionnel d'assurer la sécurité des personnes
et de l'air bien. Voilà. On va écouter, oui.
Il est vrai qu'à un moment, lorsqu'on va identifier les assaillants, si on trouve que le gros des assaillants vient de telle ou telle autre communauté de l'Ituri, on va interpeller la communauté pour que tout le monde se mette en place, mais pour que pareille tragédie ne se répète pas. Mais tout le monde est unanime pour dire qu'aujourd'hui, l'Ituri ne souffre pas d'un conflit interethnique. Il y a des bandes organisées, il y a des criminels qui commettent des crimes de droit commun dans notre province de l'Ituri. Mmh. Il faut que l'État s'assume, il faut que ces criminels soient recherchés, arrêtés et répondent à leurs faits devant la justice. C'est une action de l'État que nous attendons au niveau de la province de l'Ituri.
On retourne ici au studio pour rejoindre notre compatriote Étienne Vivian Kalonji qui est à Kikwit, expert en résolution des conflits. Merci d'être avec nous dans cet échange. Étienne Vivian, bonjour.
Bonjour.
Voilà, et là nous essayons d'explorer les pistes des solutions. Vous l'avez suivi, hein, le député Grégoire Lusenge qui est sur place à Kisangani, qui revenait de Bounia. Les auditeurs qui sont intervenus, hein, nombreux sont dans la province de l'Ituri, qui estiment aujourd'hui qu'on n'a pas en face un conflit interethnique. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est les moyens de l'État pour que les bandes organisées qui attaquent, qui déciment, qui mettent feu à des villages soient mis hors d'état à dénuire. Pour vous, quels sont d'autres mécanismes qui peuvent accompagner cette action de l'État pour mettre fin à ces genres de massacres dans la province de l'Ituri et les territoires des Djougou?
D'abord, je vous remercie de m'avoir associé à ce débat très intéressant sur la question sécuritaire de nos compatriotes de cette partie de la République. Et j'en profite aussi pour présenter mes compassions à tous ceux qui ont perdu les leurs ou tous ceux qui ont été l'objet des massacres et des déplacements aujourd'hui. Actuellement, à ce stade, lorsque je viens d'attendre religieusement le député Grégoire que vous avez associé dans ce débat, il est tout à fait d'abord intéressant d'abord de souligner que avant d'entrevoir toute la théorie sur la résolution des conflits, la résolution non violente des conflits, il va falloir d'abord s'en tenir compte d'identifier d'abord les assaillants. Identifier les assaillants. Et ici, l'identification des assaillants pourrait nous faciliter ici d'établir tout un arsenal de théories sur la résolution non violente des conflits. Pourquoi? Parce que ici on a déjà mis la main, à entendre le député national, on a déjà mis la main sur quelques assaillants. Il a fallu à ce stade ici qu'on sache déjà le mobile de leur action pourquoi se permettent-ils de massacrer une communauté ethnique? Pourquoi brûlent-ils les cages et tuent atrocement les êtres humains? Parce qu'il faut qu'on se le dise que la violence est un glaive à double tranchant. En diminuant, blessant ou tuant l'humanité dans l'autre, je diminue et blesse ou tue ma propre humanité. Donc la haine ne détruit pas la personne qui est tuée, mais elle se détruit quand même. Donc nous devons d'abord savoir identifier les assaillants. Si au départ, c'était un conflit communautaire, là, nous pouvons directement ici nous appesantir sur d'abord l'arbre généalogique de la cause de toute violence qui émane de la peur et de l'éducation. Mais à cela ne tient ici, j'aimerais bien que l'État congolais, qui a dans ses attributions, dans ses missions traditionnelles, de sécuriser les personnes et leurs biens, puisse appesantir d'abord connaître d'abord l'identité des assaillants, le mobile de leur action. Pourquoi se permettent-ils d'exterminer les gens et de tuer cruellement les gens? C'est à partir de l'identification des assaillants que nous pouvons ici apporter notre contribution sur les mécanismes de résolution non violente des conflits.
Mais quand on regarde aujourd'hui, il y a des personnes qui ont été arrêtées, il faut attendre peut-être les déroulements de procès et des enquêtes. Quel pourrait être le rôle de la société civile aujourd'hui dans cet espace en Ituri, à Djougou, pour arriver à accompagner l'État dans cette mission, d'abord de mettre fin, parce qu'il s'agit d'un conflit violent avec des atrocités graves. Quel pourrait être le rôle de la société civile aujourd'hui?
Le rôle de la société civile, c'est de promouvoir l'esprit de dialogue. Dans la promotion de l'esprit de dialogue, ici, il faut découvrir la vérité de l'adversaire. Donc, c'est-à-dire celui qui est ici motivé par le mobile de décimer ses compatriotes ou bien de décimer l'être humain. Et la société civile doit concourir pour que s'établisse le dialogue avec ces groupes de personnes, si jamais ils sont identifiés, ou si jamais, à la rigueur, l'État a mis la main sur eux, que nous arrivons à identifier que c'est toute une communauté qui s'est dressée pour massacrer les autres, ou c'est un groupe de mercenaires utilisés ici par des puissances nocturnes pour peut-être terroriser les peuples qui habitent ce coin parce que leur sous-sol regorge de minerais, nous n'en savons pas. Le rôle de la société civile est de promouvoir l'esprit de dialogue, découvrir et de reconnaître notre propre responsabilité dans le conflit. Vous savez, peut-être les victimes d'aujourd'hui, ils sont peut-être quelque part ici condamnés par une sorte de responsabilité latente qu'ils ont eu à empâtir sur leur propre attitude comportementale. C'est-à-dire ici, la société civile doit encourager l'esprit de dialogue. Et dans cet esprit, il faut ici avoir la culture d'exposer en vérité l'injustice que les uns et les autres ont subie. Voilà pourquoi l'identification des assaillants est très importante pour la résolution non violente des conflits.
Et quand on regarde aujourd'hui la zone de l'Est, le massacre aussi pour lequel on a eu beaucoup d'émissions ici à Parole aux Auditeurs à Radio Capi, la situation des Béni par exemple, avec des tueries à l'arme blanche, en utilisant aussi les armes à feu, de massacres qui continuent. Et on voit comment ces foyers se déclenchent à Djougou dans les territoires, dans la province de l'Ituri. Faudrait-il aujourd'hui la responsabilité du pouvoir public, mais il y a aussi cet appui de la communauté internationale. On sait quand il y a eu des conflits dans les temps, il y a eu la force Artemis qui est venue, il y a eu les casques bleus. Ça dit qu'autant de mécanismes, faudrait-il aujourd'hui aller un peu en profondeur au niveau de la communauté internationale, que ce soit pour Djougou, que ce soit pour Béni, pour avoir de mesures assez fortes sur le plan sécuritaire qui doivent permettre à ce que la population soit sécurisé.
Oui, certainement. Il va falloir qu'il y ait une mobilisation nationale. C'est très dommage qu'au Congo, l'esprit national n'est pas tellement ancré dans le chef des différents peuples qui composent cet espace géographique et que nous avons hérité de la colonisation. Mais ici, il va falloir comprendre, véhiculer cet esprit-là parce qu'il faut qu'il y ait une mobilisation collective des populations dans tous les contrées du Congo pour nécessairement être solidaire avec les victimes de l'Ituri. Cette mobilisation collective va inciter la communauté internationale à s'apesantir véritablement sur les crimes qui se commettent dans cette partie de notre pays. Parce qu'il faut retenir avec Martin Luther King qui disait que l'injustice en quelque endroit qu'elle se manifeste est une menace pour la justice partout. Nous sommes irrémédiablement pris dans les mailles d'un même filet qui est celui de la destinée humaine où nul ne peut échapper aux règles de la réciprocité. Aujourd'hui, il y a une conscience mondiale qui doit se créer. Il y a une opinion internationale qui se crée lorsque les uns et les autres se font massacrer aux yeux et aux yeux de tout le monde. Voilà pourquoi la mobilisation nationale doit être vraiment grande pour permettre à ce qu'une conscience collective se crée en Afrique et de par le monde afin qu'on puisse s'apesantir sur ce genre de choses. Ce genre de choses qui ont créé réellement des crises énormes dans ce que nous avons vu en 1994 avec le génocide au Rwanda à côté. Et juste à côté, là, cela se répète au Congo où on massacre les gens à Beni, on massacre les gens à Ituri et sous le regard coupable de l'autorité de l'État et voir aussi des États membres de l'Union africaine qui n'arrivent pas ici à s'imaginer comme à l'époque où une force antennée s'était descendue sur le terrain pour identifier le conflit et mettre la main et mettre fin à ces genre de conflit.
Merci beaucoup Étienne Vivien Kalongi. Vous estimez qu'ici il faut un réveil national, une mobilisation collective, une conscience collective pour l'ensemble de la population, porter la voix au créneau pour mobiliser pas seulement à national, à international, tous ceux qui peuvent être impliqués dans la résolution de ces conflits pour arrêter ces massacres, n'est pas considéré seulement que c'est une question qui concerne Djougou, mais c'est une question qui concerne l'ensemble de la population, voire les Congolais se réunir autour d'une cause commune pour défendre ces personnes et ces victimes et surtout créer cette conscience collective. Vital, vous êtes à Ouattara, merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierre, merci. Vraiment, nous sommes très contents de ce débat parce que nous devons contribuer à quelque chose. Mon frère, je salue les députés qui sont avec vous et toute la population congolaise qui nous suit. Ce qui se passe aujourd'hui au Congo, particulièrement à Djougou aujourd'hui, hier à Beni, avant-hier à Kasaï, ce sont des choses qui ne sont pas de nature congolaise. Ce sont des meurtres qui viennent de l'extérieur. Planifié, bien comploté. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est un rappel parce qu'il y a des rapports des Nations Unies, des rapports de l'Union africaine qui ont déjà écrit sur ces choses-là. Mais nous, les Congolais, nous faisons semblant en négligeant ces pays. Si nous les laissons aux mains de ceux qui nous tuent aujourd'hui, nous allons tous disparaître. Si vous regardez la chaîne de commandement à l'est du pays, il n'y a pas de la sécurité pour les Congolais. Tous les gens qui dirigent l'armée, l'armée, tout ça, ce sont des gens qui n'ont même pas le sang congolais. Vous voyez tout ça. Et lorsque un officier militaire est envoyé à l'est du pays, il doit automatiquement adhérer à ce système-là. Il doit accepter la jupe, il doit accepter d'avoir beaucoup d'argent, mais sacrifier son peuple, sacrifier sa patrie. Ça, c'est une vérité, et tout le monde me suit. Je suis un ami de beaucoup d'Ema, beaucoup de gens de l'est, de Mahagi, partout là, nous parlons avec eux. Il n'y a aucune tribu qui est en conflit avec une autre. C'est quelque chose qui est planifié, mais comme nous avons des hommes faibles, nous avons des hommes incapables, devant l'argent, ils tremblent, ils laissent de sacrifier des milliers de Congolais pour qu'aujourd'hui nous puissions passer. Moi, j'aimerais dire quelque chose à tous les jeunes de la République démocratique du Congo, que ce qui est là, ni son abus, ni son père de Mbogadis. Nous devons assumer, nous devons nous mettre debout. Ça ne coûte rien. Nous devons seulement demander l'autorisation au chef de l'État qui nous suit en ce moment de pouvoir donner de l'ordre à tout ce qui se passe à l'Est, que la population congolaise elle-même se prenne en charge. Tout ce que nous pouvons raconter en un bon français, là, c'est mieux. C'est bien pourquoi la contribution, comment trouver des solutions. Mais les ministres, les vice-premiers ministres chargés de l'intérieur, jusqu'aujourd'hui, c'est à Bougna. Il craint la mort là où ça se passe. Si c'était des conflits interethniques, il allait bien être là sur place. Mais ils savent très bien que ce sont des gens qui n'ont même pas la maîtrise des contrôles. Pourquoi? Parce que les rapports qu'ils ont, ça montre que ce sont des gens non identifiés. Mais regardez notre ANR, regardez nos services de sécurité. Ce sont des gens qui font entrer tout, même les armes à la frontière. Ils n'ont pas la maîtrise de la situation. Lorsqu'ils entrent, ils savent de quoi s'agit-il. Quand on tue le Congrès, ils savent de quoi s'agit-il.
Okay. Alors pour vous, moi, vous estimez Vital pour vous, oui. Vital, vous estimez pour vous que vous souhaitez que la population se prenne en charge, mais rappelons quand même que c'est la mission régalienne de l'État de protéger les personnes et leurs biens. Mais pour vous, c'est pas question de dire que les gens ne sont pas identifiés, ce sont des meurtres planifiés et c'est l'État doit prendre la responsabilité, mais non pas seulement en termes de l'autorité, de commandement, mais aussi en termes de comportement, parce que là, vous avez évoqué le responsable qui achète de grosses jupes, qui s'enrichissent, mais dans ses comportements, et alors qu'à côté, il y ait de troubles et des massacres, c'est qu'il y a quelque part l'intérêt du trafic. Pour vous, les personnes sont identifiées, c'est pas un conflit intercommunautaire, on l'a déjà dit plusieurs fois depuis le début de cette émission, même par ceux qui sont intervenus sur place à Dougou. Il suffit tout simplement que l'échange d'informations et des renseignements soit bien mené pour qu'on sache qui sont ces personnes. Et vous estimez que l'autorité publique est informée et il faut prendre des mesures pour mettre fin à cela. Placide, merci d'être avec nous. Vous êtes à Lubumbashi. Merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Bonjour Pierre. Bonjour les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
Pour commencer, je remercie et félicite la radio Capi et tous les journalistes pour un service qui le rend à la population congolaise. Ceci, je le dis, sur les formations des Japonais, à cause de la radio Capi, l'information qu'il a donnée, je viens d'apprendre par même au Capi que l'assurance est intervenue pour qu'on puisse enterrer dignement la pauvre fille qui a été tamponnée. Merci encore une fois pour la radio Capi.
Merci beaucoup, Papa Placide. Merci.
Alors, mon intervention sur l'affaire de Touri est très simple. Depuis que les tueries ont commencé dans ce territoire, on me dit qu'on a arrêté plusieurs personnes. Des centaines sont en prison, ils attendent d'être entendus, jugés. Est-ce que les députés qui parlent, les autorités qui parlent actuellement, les gens qui sont en prison, ils n'ont jamais déclaré avec qui ils travaillent. Parce que les députés ne doivent pas nous cacher quelque chose. On aimerait le considérer comme celui qu'on met hier de les arrêter parce qu'il y a eu des tueries. Mais ces gens-là qui sont arrêtés, ça fait plusieurs mois, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce que nos services de sécurité nous racontent, qu'est-ce qu'ils ont comme précision. Donc il ne faut pas tourner autour du pont. On nous dit ce qui se passe. Pourquoi on nous cache venez, et qu'on appelle les gens, ils doivent se répondre. Et pourtant on a arrêté les gens après cette tuerie-là. Mais pourquoi on ne nous donne pas de précisions, les nouvelles, les motifs pour lesquels ces gens-là viennent.
Alors oui, Papa Placide, voilà, merci beaucoup. Vous estimez que dès lors que des personnes ont été déjà arrêtées, il serait mieux que les formations soient partagées, que ces personnes soient identifiées, jugées, que les gens sachent au juste qui sont ces personnes, qui les ont mandatées, où est-ce qu'ils ont trouvé les armes, que tout ça soit clarifié. Il revient au pouvoir public, à la justice de pouvoir faire ce travail. Merci beaucoup pour votre intervention. On va terminer avec vous, Claude, vous êtes à Butembo. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Radio Capi, bonjour messieurs les journalistes.
On vous écoute, Glo.
Je voudrais intervenir concernant la situation qui se passe à Djougou. Vous savez que il y a longtemps que la situation est en train de se passer malheureusement dans le Kivu et en général.
Dommage.
Sont en train de se perpétrer parce que dans toutes le coin du pays. Donc, à Beni, vous savez que le massacre continue. Vous voyez que c'est en train de s'effectuer dans les Katanga, dans les Kananga est en train de s'effectuer. Alors, vous savez que la population, c'est les yeux de la société. Selon les informations qui sont en train de se... De dans la société.
Dommage, Claude. Avec... Claude, on a des petits soucis hein, avec un bruit de fond sur votre ligne téléphonique. Dommage, on ne saura pas aller plus loin. On revient à vous, Grégoire Lusenge, parce qu'on doit terminer cet échange. Vous l'avez suivi. Placide de Lubumbashi estime, lui, que dès lors que les personnes, quelques personnes ont été déjà arrêtées, ça, c'est déjà assez suffisant pour qu'on ait une ample information. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'ils arment? Et puis, toutes ces questions devaient être clarifiées pour apaiser quand même la population. Avez-vous déjà mené à cette démarche auprès des autorités pour vous rendre compte de ce qui s'est passé après l'arrestation de ces assaillants, Grégoire Lusenge?
Merci beaucoup, Pierrot. Je crois que je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur, parce que nous-mêmes, quand nous sommes arrivés à Bounia, lors du sommet de notre caucus pendant les vacances parlementaires, nous avons été informés par les autorités provinciales qu'un groupe d'assaillants était déjà arrêté. Et nous nous posions la question pourquoi, par rapport à la tragédie que nous connaissons en province de l'Ituri, on n'a pas commencé l'instruction du dossier. Parce que l'instruction du dossier devait permettre au service des renseignements d'avoir des informations capitales en rapport avec les assaillants qui sont engrés dans le DE, en rapport avec leur démarche, comment est-ce qu'ils agissent, comment est-ce qu'ils opèrent, où est-ce qu'ils sont localisés. Mais je crois que même dans le rapport final à l'issue de notre caucus, nous avons déploré ces faits. Nous nous sommes posé la question, vous arrêtez des assaillants, vous le mettez dans le cachot. Mais pourquoi ne pas commencer à instruire les dossiers pour obtenir les informations et pour décourager les autres qui sont encore sur le terrain? Donc je suis d'accord avec l'auditeur, parce que la lenteur de l'instruction du dossier sur le plan judiciaire est aussi à la base de la poursuite de ces grammes que nous avons aujourd'hui. Moi, je pense que si on avait commencé dès le début à inscrire des dossiers à charge de quelques assaillants qui étaient déjà arrêtés, qui étaient déjà entre les mêmes autorités au niveau de la province, une fois jugés, une fois identifiés et punis sévèrement conformément à la loi, cette situation allait être découragée. Mais le fait tout simplement de prendre des gens, de les mettre dans le cachot et sans aucune instruction judiciaire, là, ça pose problème.
Merci.
Je crois qu'il est plus que temps, comme le vice-premier ministre est là, c'était même une des recommandations des résolutions de notre caucus.
Merci.
Nous avons souhaité qu'au plus vite possible, l'instruction judiciaire commence.
Merci.
Pour qu'on identifie les assaillants et que justice soit rendue. Ça, c'est une façon de décourager et une façon d'avoir suffisamment de
merci beaucoup,
sur
Grégoire.
De l'Ituri.
Voilà, merci beaucoup, Grégoire Lusenge, député national, membre du caucus des députés de l'Ituri. Merci d'avoir été avec nous pour commenter ces sujets. On espère, comme beaucoup d'auditeurs l'ont souhaité, que plus vite les mesures soient prises pour mettre fin à ces drames et permettre à la population de vivre paisiblement et surtout à ceux qui sont déplacés de retourner dans leur milieu. Merci aux auditeurs, vous avez été nombreux. Et cela étant, nous recevons dans ce studio Nico Kalambay pour les sujets de lendemain. Nico, bonjour et bienvenue.
Bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de Parole aux auditeurs.
On se retrouve encore demain.
À 11h demain, on sera là pour un autre thème. La rentrée parlementaire pour la session ordinaire de mars en RDC est prévue pour aujourd'hui. Certains observateurs estiment qu'au cours de cette session parlementaire, les élus du peuple devront adopter prioritairement la loi portant répartition des sièges pour les législatives nationales, provinciales, municipales et locales. Et ils n'ont que jusqu'au 23 avril prochain pour l'adopter, tel que prévu, dans les contraintes liées à la mise en œuvre du calendrier électoral publié en novembre 2017 par la CENI. Comment réagissez-vous? C'est autour donc de ce thème que va tourner notre débat de demain. Le numéro d'appel, c'est le 081 890 69 49 et les auditeurs peuvent se faire enregistrer déjà à 10h demain.
Et les sujets sera tout à l'heure sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs.
Ils peuvent également nous laisser leurs commentaires sur notre page Facebook, Pierrot.
Merci beaucoup, Nico.
Ils ne répondent pas.
Merci à Jean-Claude Nsiala qui était à la mise en onde de ce magazine réalisé par Nico Kalambay. Gérald Gembo était à la coordination. Pierrot et la Meiji, j'ai eu le plaisir de vous le présenter. Parole aux auditeurs, c'est sur www.radiocapi.net. Il nous reste à vous souhaiter d'agréables moments en compagnie de Radio Capi. Merci, au revoir.